à visage découvert. L'émission qui dévoile la face cachée des politiques de ceux et celles qui vous représentent au sein des institutions de la République. À visage découvert, un rendez-vous mensuel proposé et présenté par Nadia Bey. C'est mercredi 19h et rediffusion samedi 11h sur Radio Orient.
Mesdames, messieurs, bonjour. Très, très ravie de vous retrouver. Vous allez le voir aujourd'hui en mode délocalisé. Nous nous sommes rendus au QG de Rachida Dati, comme vous le voyez justement derrière cet écran. Donc, à visage découvert, mode délocalisé, nous sommes ici, je vous le disais, au QG de Rachida Dati, candidate LR. Et son QG se trouve dans le 12e arrondissement. Et nous sommes à deux semaines du premier tour, donc prévu, je vous le rappelle, le 15 mars et le deuxième tour le 22 mars. La campagne, il faut le dire, bat son plein. La Rachida Dati est sur tous les terrains et multiplie plateaux, télé, radio, tracteurs. Sur les marchés, infatigable mais surtout déterminé plus que jamais à gagner la bataille de Paris. Une bataille rude, comme on le disait, ses adversaires ne l'épargnent pas, elle va nous le dire. Mais reste à savoir si elle réussira à désamorcer toutes ces mines, nous lui poserons la question. Rachida Dati, donc bonjour Madame la Ministre.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre QG. On est venu très tôt, vous avez un planning hyper chargé. Mais d'abord, un mot sur votre parcours dans cette image à visage de découvert. C'est sans filtre. Voilà, vous avez 60 ans, mère d'une enfant, d'une fille qu'on connaît, que tout le monde connaît désormais, Zora. Vous êtes née à Saint-Rémy en Saône-et-Loire et vous avez un père marocain ouvrier, maçon arrivé en France en 1963, de mère algérienne décédée en 2001, paix à son âme, rahimahullah. Vous êtes issu d'une immigration, un parcours, il faut le dire, exceptionnel. Vous avez été garde des Sceaux, vous avez été députée européenne, maire du 7e arrondissement et ministre de la Culture. Et votre parcours est dense, riche et surtout inspirant pour beaucoup d'hommes et de femmes surtout qui nous écoutent et qui attendaient votre intervention sur notre antenne. Alors, on pourrait y passer des heures, j'ai envie de dire, sur votre parcours. Il est tellement inspirant et riche que j'ai envie de vous dire, vous incarnez à vous seul une ode de la méritocratie d'une France métissée. Mais l'égalité des chances n'est pas totalement au rendez-vous, elle n'est pas totalement une réalité aujourd'hui en France. Dites-nous d'abord, quel est le secret de cette réussite et comment vous avez réussi à briser le fameux plafond de verre, Rachida Dati.
Merci d'être venue jusqu'à nous et dans ce QG où effectivement on organise la campagne, dans lequel effectivement on élabore notre projet, on reçoit des Parisiens, des associations. Enfin, c'est un QG qui est très ouvert et qui accueille tout le monde. Quand vous décrivez mon parcours, vous y mettez beaucoup de superlatifs. Comme si tout était voire exceptionnel. Ouais. Et ça démontre bien que l'égalité des chances ne bat pas son plein encore en France. La France est une république qui permet évidemment de reconnaître les mérites de chacune et chacun dès lors où vous êtes engagé, vous travaillez. Ça, c'est vrai. Après, il y a des obstacles. C'est une course d'obstacles à chaque fois. Il faut lutter contre les préjugés, il faut lutter contre les discriminations, il faut lutter contre les inégalités. Et donc, c'est un parcours du combattant ininterrompu.
Donc, c'est-à-dire que votre parcours a été tumultueux. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, justement, d'une discrimination que vous avez vécue ?
Non, mais c'est pas... moi, j'ai fait des études, j'ai commencé à travailler très tôt. J'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans. Et puis, depuis l'âge de 16 ans, ouais, je travaille à plein temps de manière ininterrompue à ce jour. Et ça, d'une part, pour financer mes études, mais beaucoup aussi pour soutenir ma famille et puis les accompagner également, que ce soit mes frères et sœurs ou mes parents. Mais ce n'est pas vraiment un plafond de verre. Le plafond de verre, il existe. Parce que plus on vous empêche d'accéder, soit des responsabilités, soit d'accéder à une situation... Ça veut dire que le plafond de verre,
il est là,
il résiste. Après, c'est plutôt les préjugés, une forme de mépris social, une forme un petit peu de rejet, mais c'est jamais très direct. C'est toujours très sournois, très perfide. On vous décourage, on vous écœure, on vous dit c'est pas la peine de faire ça. en disant mais pourquoi tu veux faire ça ?
Alors racontez-nous, Rachida Dati, justement un exemple concret où vous avez été un petit peu écœurée par une humiliation, par un
geste. C'est souvent au long cours. Et vous voyez, par exemple, je le retrouve là où, depuis que je suis candidate à la mairie de Paris, il y a un petit peu cette arrogance. Qui est masqué par d'autres choses. Un exemple, on considère que Paris est à gauche. Et donc les candidats considèrent que c'est à eux. Mais ça va plus loin.
Ils y sont depuis 25 ans.
Non, mais ils considèrent que c'est à eux, mais ils considèrent surtout que ça ne peut pas être pour vous. Voilà. Il y a quand même ce petit truc. Alors ils vont vous dire non, mais parce que vous êtes de droite, parce que vous êtes dans une opposition politique, mais y compris des candidats de mon propre camp.
Mais c'est ce que j'allais dire, vos adversaires ne sont pas qu'à gauche, ils sont aussi
bien
à droite.
Bien sûr, je l'ai vécu en 2020. Aujourd'hui, certains continuent à vouloir être dans cette opposition. Mais ça n'est pas le sujet. Moi, je sais où je vais. J'ai une équipe solide, une équipe d'élus expérimentés. On a un projet cohérent. Et donc, le tout, c'est de résister.
Mais pourquoi est-ce que Rachida Dati dérange plus que les autres ?
Non, parce que sans doute qu'ils considèrent que ce que je vise n'est pas... ne m'est pas destinée ou n'est pas pour moi. Et moi, je démontre tout le contraire. Et c'est pour ça que vous parliez des autres ou d'être inspirante. Je pense aussi qu'on a une responsabilité vis-à-vis de personnes qui sont de conditions sociales défavorisées ou parfois c'est un peu compliqué. On a une responsabilité de leur dire c'est possible. De leur dire aussi qu'on est là aussi pour leur tendre la main si ça ne va pas ou s'ils ont besoin d'un soutien. Et donc, ma responsabilité, c'est de résister.
Alors, résistance, c'est le maître mot, j'ai envie de dire. Vous l'avez souvent déclaré, Rachida Dati, votre combat, c'est la lutte contre les inégalités et contre les discriminations. Mais les chiffres, aujourd'hui, il faut le dire, parlent d'eux-mêmes. Quand on voit un petit peu les rapports de la défenseure des droits, qui révèlent effectivement qu'une saisine sur deux, bien sûr, concerne l'embauche, l'accès à l'embauche avec des critères, couleur de la peau, origine, géographique et autres. Alors, ça veut dire quoi ? Que les lignes n'ont pas bougé ? Vous êtes en politique depuis des années.
Non, les lignes ont bougé quand même. Sinon, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Et puis d'autres personnalités issues de l'immigration. Mais moi, je pense aussi plutôt aussi issues de conditions sociales très défavorisées, puisque vous pouvez être issu de l'immigration et d'une condition sociale favorisée ou qui vous permet de franchir plus facilement les étapes. Non, je pense plutôt, moi, c'est la condition sociale qui vous entrave un peu, parce que vous ne connaissez pas les codes, vous ne connaissez pas les gens, vous n'avez pas de réseau. Et donc, quand quelqu'un comme moi a un réseau, connaît des gens, on considère que vous intriguez, vous êtes courtisane. Quand c'est les autres, on considère que finalement, c'est plutôt bien, d'ailleurs. Et ça démontre bien que vous avez réussi à franchir des étapes importantes, que vous êtes faites partie de l'élite.
Rachida Dati, vous venez de le dire, effectivement, vous n'avez pas eu la chance d'avoir le réseau de papa ou de maman, mais ce réseau, vous l'avez créé. Est-ce que, justement, il y a eu des mains tendues pendant
Bien sûr. Moi, je vais vous dire, je ne dois pas tout qu'à mon travail. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes et les personnes qui m'ont fait confiance. Mais ces personnes, quand elles m'ont fait confiance, elles m'ont pas dit « on vous donne tout et puis allez-y ». Ils m'ont mis un pied à l'étrier, j'ai mis le deuxième, j'ai travaillé, j'ai démontré aussi que j'étais capable d'exercer des fonctions à responsabilité. J'ai été garde des Sceaux, j'ai été porte-parole d'une campagne présidentielle gagnante et fortement gagnante, qui était celle de Nicolas Sarkozy. J'ai été parlementaire européen pendant 10 ans, maire du 7e arrondissement, et ce n'est pas n'importe quel arrondissement à Paris, le 7e arrondissement. Donc ça démontre bien que la France est plus ouverte que ça, son élite est plus conservatrice que ça. Et j'allais dire, elle est plus conservatrice et à la fois, elle est imprégnée de préjugés. C'est ça qui est gênant.
Est-ce qu'on peut dire justement que Rachida Dati, quel que soit X, elle est l'exception statistique ?
Pour l'instant, il y en a d'autres. Moi, je pense à d'autres personnalités. Ce n'est pas une exception statistique, c'est que le combat est rude et je trouve qu'il faut toujours déployer une énergie beaucoup plus importante que les autres. Après, on vous reproche d'être, on va vous dire, vous êtes clivante, vous êtes agressive, vous êtes toujours sur la brèche. Oui, on n'a pas d'autre choix. Voilà. Si vous reposez, on peut vous faire reculer de 10 mètres. Donc voilà, donc c'est vrai, on est toujours sur la brèche, on est toujours dans le combat, on est toujours dans le travail, on essaye toujours de démontrer que, bah, qu'on est bon, qu'on est légitime et compétent. Parce que ce qu'on nous reproche souvent, ou qu'on essaye de ce sur quoi on essaye de nous faire douter, on essaye de nous faire douter sur notre compétence et sur notre légitimité. Moi, je suis très fascinée, y compris avec des collègues du gouvernement, ouais, qui ont des certitudes sur tout, qui estiment que ce qu'ils ont leur revient de droit. Donc moi, je suis très... vraiment, je me dis, ils ont beaucoup de chance d'être comme ça. Et ouais, je ne suis pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'importe dans l'éducation de ma fille. Et je me rends compte qu'on n'échappe pas à son enfance ou à sa vie, parce que parfois, ce doute, ouais, je vois ma fille, elle doute aussi, elle est pas très sûre d'elle. Et j'aimerais tellement...
Elle voit sa maman, vous êtes déjà un modèle.
Oui, mais elle, j'aimerais tellement pouvoir lui enseigner, la rassurer et qu'elle ait confiance en elle. Ouais. Nous, on a été éduqués dans un manque total de confiance en nous, parce qu'on considérait que ce n'était pas pour nous, que rien n'était finalement pour nous.
Alors, la bataille pour Paris, on peut dire que c'est la bataille de votre vie, c'est le combat de votre vie. Parce que quand même, quand on sait que vous avez été garde des Sceaux, plus besoin de Paris. Mais Paris, pour vous, c'est hyper important.
D'abord,
pourquoi
c'est une élection et ce n'est pas une nomination. Voilà. Et je l'ai toujours dit, j'ai toujours été plus émue d'être élue que d'être nommée. Je ne dis pas, faut pas vous méprendre. Ouais. Quand j'ai été nommée garde des Sceaux, ça a été pour moi un tremblement de terre. Ouais. Comme le nom de ma famille résonne dans la cour de l'Élysée comme ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'était...
Grandiose.
Oui, mais certains ont dit, est-ce que c'était une revanche sociale ? Pas du tout. Je me disais, on y est arrivé. Enfin, les sacrifices de mes parents, moi, j'ai travaillé beaucoup de nuits, les nuits sans sommeil, les douleurs, les épreuves, ouais, la violence. Parfois, on se disait, moi, je me suis dit plus d'une fois, je ne vais pas y arriver, y compris dans des études ou quand je travaillais très durement.
Vous avez douté à un moment donné de vos capacités ?
C'est pas douter des capacités, c'est parce qu'il faut vraiment, ouais, de l'énergie non-stop. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que vous n'avez pas de moment de répit. C'est ce que, si je veux faire un bilan de ma vie, finalement, j'ai très peu eu de répit dans ma vie. Et donc, c'est ça.
Alors, et vous continuez aujourd'hui encore pour Paris.
Mais bien sûr, mais parce que le combat est long et qu'il n'est pas gagné. Ouais. Et donc, vous n'avez pas de répit, vous doutez tout le temps, mais vous vous dites, on peut y arriver.
Ouais. Alors, on peut y arriver. Nous sommes à une minute de la fin de la première partie de l'émission. Vous avez été partout, là où les autres n'ont pas été. On vous a vu aux côtés des éboueurs, vous les avez valorisés. D'ailleurs, j'en ai rencontré quelques-uns qui voulaient venir même aujourd'hui vous rencontrer pour vous saluer. Si dire en fait que cette vidéo qui a fait plus de 5 millions de vues a impacté plus d'un et plus d'une. Alors, restez avec nous si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Rachida Dati, mais son histoire aujourd'hui pour la bataille de Paris. Restez avec nous après cette pause.
À visage découvert. L'émission qui dévoile la face cachée des politiques de ceux et celles qui vous représentent au sein des institutions de la République. À visage découvert, un rendez-vous mensuel proposé et présenté par Nadia Bey. C'est mercredi 19h et rediffusion samedi 11h sur Radio Orient.
Alors nous avons aujourd'hui l'énorme plaisir de rencontrer dans son QG Rachida Dati. Comme vous le voyez, changer avec Rachida Dati, c'est la bataille que Rachida Dati mène depuis déjà des semaines. Elle a été d'ailleurs en campagne très tôt avant les autres et on l'a vu sur tous les terrains. Certains ont critiqué certaines vidéos parce que pour eux c'était un peu du voyeurisme. Quelle réponse avez-vous à adresser justement à ceux qui disent « elle fait un peu trop, elle fait du show » ?
Non, en fait, j'ai voulu montrer par ces vidéos la réalité de Paris, de ce qu'est devenu Paris. Il y a certains endroits, des arrondissements, que ce soit dans le Nord et l'Est, où les Parisiens on leur a confisqué leur espace public. Ouais. C'est un espace qui est devenu de plus en plus dégradé, où la délinquance, l'insécurité a fortement augmenté. Quand je vois entre 2019 et 2025, par exemple, le narcotrafic a augmenté de 218%, les agressions sexuelles ont augmenté de 60%, les atteintes aux personnes ont augmenté de 25%. Et donc, j'ai voulu montrer, évidemment, cette insécurité, la saleté. Paris est devenu de plus en plus sale, alors que ça n'est pas une question de moyens. Il y a 7500 agents et il y a 800 millions d'euros de budget. De la même manière, regardez sur le logement. Le problème à Paris, c'est pouvoir se loger. Et donc, cette municipalité sortante, cette gauche, a voulu faire du parc social. Et ils veulent continuer à augmenter
le parc
social.
Vous dites non pour le logement social à 40%. Pourquoi alors que vous sortez de ce milieu, oui, j'ai envie de dire. Vous êtes une enfant de l'immigration.
Oui. Cette gauche-là veut augmenter le taux de logements sociaux à Paris de plus de 40%.
Oui.
Il y a des arrondissements où nous sommes déjà à 45%, le 13e, le 19e et le 20e. Et
parce qu'il y a des travailleurs qui travaillent à Paris, non, mais qui ne sont pas nantis.
Non, justement, la gauche a fait dans ce parc social, elle a logé dans ce parc social, pas des travailleurs, pas forcément des gens qui rendent des services à Paris. D'ailleurs, certains y vivent et ne travaillent pas à Paris. Moi, je souhaite évidemment inverser cette tendance. D'ailleurs, quand ils disent on va faire plus de 40% de logements sociaux partout dans Paris, ça n'existe pas une ville qu'avec des logements sociaux. Ça montre bien qu'ils ne connaissent pas le parc social, qu'ils n'y ont jamais vécu. Et ils n'ont pas fait du parc social, ça sert à la mixité. Et eux en ont fait un ghetto. Allez dans certains endroits, boulevard Ney, cité Saint-Blaise, vous allez à la cité rue Nationale, boulevard Kellermann, Rosa Park, boulevard McDonald, j'ai fait tout, la cité des Perrichaux, j'ai fait tous les parcs sociaux.
Alors, que répondez-vous, Rachida Dati, à ceux qui disent que Paris sous Rachida Dati, c'est Paris des milliardaires?
Non, mais moi, je voudrais du parc social pour les gens qui travaillent, et pas uniquement pour une catégorie sociale, la même, la plus défavorisée, et qui soit ghettoisée.
Ouais.
Il y a du logement sur lequel on peut évidemment permettre pour des personnes les plus défavorisées, qui ne travaillent pas forcément. Ça, c'est une catégorie sociale que nous pouvons évidemment prendre en charge. Pour le parc social, normalement, le parc social, ce sont effectivement pour les gens qui travaillent à Paris ou qui rendent des services à des Parisiens. Et d'ailleurs, Paris Habitat, nous l'avons vu dans la presse, a dénoncé, enfin, il y a eu un énorme scandale qui perdure depuis des années.
Ouais.
Monsieur Brossat était tout à fait informé de détournements de fonds publics importants au sein de Paris Habitat. Le parc social, on l'a, avec la complicité des élus, ont été informés.
Il a été adjoint de Anne Hidalgo, chargé du logement.
Ouais. Et il a été alerté sur des détournements de fonds importants. Des marchés de travaux qui n'ont pas existé, des marchés fictifs, des sous-traitants qui ont été sous-payés, voire pas payés du tout, l'argent détourné, des élus et des dirigeants de Paris Habitat qui ont profité de cet argent. Voilà le bilan.
Alors 12 milliards de dettes, justement, vous allez la réduire, cette grosse dette?
Sur le parc social, voilà la gabegie. Moi, je ferai de ce parc social un parc mixte, mais je rénoverai l'ensemble du parc social. Aujourd'hui, les gens du parc social ne sont pas logés avec respect et dignité. Et donc, nous ne continuerons pas comme ça. Quand je vois M. Brossat qui va voir les gens dans le parc social en disant « si vous votez pour Rachida Dati, vous allez être expulsé », c'est honteux. Moi, je veux bien les traiter parce que je les respecte. Pour la première fois, M. Brossat met les pieds dans le logement social pour aller les menacer. C'est une honte. Voilà ce qu'est la gauche parisienne aujourd'hui.
Il y a aussi un combat qui est mené pour les réquisitions. Alors, on les voit maintenant à cheval pour le triangle d'or, pour récupérer
la réquisition, les réquisitions. La réquisition, ce n'est pas une politique de logement.
C'est une proposition d'ailleurs de loi.
Ça n'est pas une politique de logement.
Oui.
Loger les gens, ce n'est pas prendre le bien des autres. Ça n'est pas comme ça.
Mais c'est quand même des biens inoccupés depuis des années, Madame Rachida Dati.
Il y a une atteinte à la propriété privée. La réquisition de biens privés, alors il peut y avoir des sujets sur des biens publics ou autres, mais quand vous êtes propriétaire, madame, vous aimeriez, si vous avez un appartement ou un petit studio que vous gardez pour que ça finance un peu ou que ce soit un complément de votre retraite, qu'on vous le prenne, qu'on mette des gens dedans et qu'on ne paye pas,
c'est compliqué.
Paye pas de loyer, c'est
une tâche compliquée. C'est une tâche certainement compliquée. Justement, l'arrivée de la droite va changer le visage de Paris, puisque vous dites « changer Paris » avec Rachida Dati. Qu'est-ce qui va changer?
D'abord,
on se souvient justement d'une séquence qui a été une belle vitrine de Paris, les JO en 2024, les JO de Paris, où Paris était propre, où Paris était sécure, où Paris était une destination, et elle l'est encore aujourd'hui, une destination très prisée par les touristes, et ce qui classe d'ailleurs Paris en tête du palmarès.
Paris n'est très mal classée en termes de sécurité et de propreté. Les derniers classements disent que c'est une des capitales les plus sales, des capitales européennes les plus sales, les plus embouteillées et également les plus insécures. Quand je vous donne les chiffres de la délinquance qui a explosé à Paris, on ne peut pas dire que Paris rassure.
Ouais.
Moi, je suis maire du 7e, le Champ de Mars est géré par la ville de Paris. Il y a une explosion de la délinquance sur le Champ de Mars, notamment les agressions sexuelles et des agressions sexuelles, pour ne pas dire des viols, sur des touristes. C'est quasiment tous les jours. Voilà ce qui se passe à Paris. Donc moi, je voudrais évidemment que la sécurité soit totale à Paris et je mettrai 5000 policiers municipaux armés, équipés, formés. Je doublerai le nombre de caméras de vidéoprotection sur l'espace public et tout ça, je l'interconnecterai à chaque mairie d'arrondissement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les maires d'arrondissement ne connaissent pas la criminalité sur leur territoire. Quand il se passe quelque chose de grave, on est informé souvent soit par la presse, soit par le commissaire. Et ça n'est pas normal. Je veux que les maires d'arrondissement se rapprochent s'approprient non seulement la sécurité de leur arrondissement, mais aussi la propreté. La ville sera propre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le logement, je ferai un logement pour les classes intermédiaires, pour ceux qui travaillent à Paris, pour ceux qui travaillent pour les Parisiens. Ça sera ma priorité.
Et vous avez également... Je le dis et je le répéterai jamais suffisamment, vous sortez d'un milieu, j'ai envie de dire, ouvrier. Théoriquement, vous devriez être à gauche et non pas à droite. Vous en allez dire pourquoi. Les bénéficiaires de la CAF, ils sont nombreux justement à vouloir habiter Paris. Quelle est votre réponse par rapport justement à cette demande? Et c'est des gens, par exemple, les éboueurs, les travailleurs, ceux qui se lèvent tôt. Ils font partie de la France qui se lève tôt.
Les assistantes maternelles, les aides-soignantes, les infirmières.
Qui font vivre à Paris.
De la propreté, les aides à domicile. Oui. Parce que, vous savez, à Paris, on ne pense jamais qu'on peut vieillir à Paris et qu'on peut même y mourir. Ouais. Et aujourd'hui, on ne pense pas à ces personnes âgées qui souvent veulent rester chez elles. Mais elles ne peuvent pas y rester pour la simple raison qu'il n'y a personne pour s'occuper d'elles chez elles. Et donc moi, je veux que ces assistantes à domicile, ces aides-soignantes puissent être prioritairement logées pour justement permettre aussi à ces personnes âgées de vivre dans leur cadre de vie et pouvoir partir très tranquillement et dans un cadre de vie qui ne les perturbe pas. Et donc, elle est là ma vision pour Paris. La mixité, c'est une harmonie. Une ville, ça s'organise, ça s'ordonne aussi. Mais aussi, c'est une harmonie. Sinon, si aujourd'hui, la gauche, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a polarisé Paris. C'est-à-dire que c'est l'Est contre l'Ouest, c'est le Nord contre le Sud, c'est évidemment la gauche contre cette gauche qui honnit les entreprises, qui honnit ceux qui ont un peu plus de moyens que les autres. Moi, je souhaite que tout le monde puisse évidemment vivre plus harmonieusement ensemble. Et c'est tout le sens de mon projet.
Alors, Ajida Dati, vous êtes une femme d'influence. Je sais que vous n'aimez pas trop les superlatifs, mais c'est une réalité. Vous pourriez, il faut le dire, devenir la première maire de Paris issue de l'immigration. Dites-nous si vos origines ont été plutôt un cadeau ou un fardeau. Et est-ce que, justement, si vous êtes élue à Paris, c'est un peu le phénomène de New York qui se produit ou de Londres. Est-ce que le phénomène Mamdani peut se produire aujourd'hui à Paris?
C'est pas la même histoire.
On est d'accord.
Ça n'est pas la même histoire. Même nous, d'ailleurs, en fait, on nous essentialise. Mais on ne vient pas de la même condition, on n'a pas eu le même parcours, on n'est pas venu à la politique pour les mêmes raisons. Donc, ce n'est pas la même histoire. Mais qu'à un moment donné, on change, on casse un peu les conservatismes, c'est plutôt bien.
Ouais. Est-ce que c'est possible, justement?
Mais bien sûr, alors, c'est possible.
Ben voilà, enfin,
en tout cas, aujourd'hui, je me bats pour que ce soit possible. Voilà. Ouais. Ça dépend des Parisiennes et des Parisiens. Moi, je leur dis, aujourd'hui, c'est une élection historique. Ouais. Depuis 2001, c'est la première fois que les Parisiens veulent que ça change. Ils veulent que ça change et que ça change en mieux. Que ça change en mieux pour la sécurité, que ça change en mieux pour la propreté, que ça change en mieux pour le cadre de vie, pour le logement, que ça change en mieux pour la circulation, ça change en mieux pour que vous puissiez vivre de manière apaisée. Donc, moi, je leur dis, si vous voulez que ça change, je suis la seule à pouvoir porter et incarner ce changement.
Alors, est-ce ce n'est pas vos origines qui constituent un obstacle, Rachida Dati?
Non,
justement, on a entendu Emmanuel Grégoire dire Dati et Sofia Chikirou, c'est des sœurs jumelles.
Parce qu'ils nous ramènent à des origines, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même parcours.
Deux maghrébines.
Non, ils considèrent qu'on est deux Arabes.
Il faut appeler les choses par leur nom.
Et ils considèrent que Paris ne peut pas être donné à des Arabes.
Voilà qui est dit.
Parce que c'est ce qu'ils se disent entre eux, je vous le dis. D'ailleurs, regardez leur liste, il n'y a pas du tout de diversité. Et moi, j'ai quelques élus qui ont été évidemment écartés de la liste de gauche, qui sont venus se confier à moi.
Est-ce que la diversité est présente sur vos listes, en tête de liste?
Mais bien, on a de la diversité.
On ne les voit pas en tête de liste.
Moi-même, je suis...
Non, mais vous, je parle des têtes de liste.
Oui, mais regardez, d'abord, j'ai repris des maires qui ont été élus. Et donc, je ne peux pas remettre en cause... Moi, je ne fais pas de gadgets. Je veux de la compétence.
Non, pas forcément des gadgets. Voilà, mais il y a des élus et des candidats issus de la diversité qui sont tout à fait capables.
Aujourd'hui, vous avez vu que moi, mon équipe, ce sont des élus expérimentés qui étaient déjà implantés. Certains sont maires et d'autres étaient déjà implantés depuis 2020. Donc, moi, je ne veux pas être injuste non plus. Il ne faut pas que, sous prétexte du critère de la diversité, vous soyez injuste.
Vous ne favorisez pas la diversité obligatoirement et systématiquement.
Non, mais la gauche se gargarise de ça. Oui. Et elle n'a pas d'élus implantés dans certains endroits. Elle aurait pu mettre des têtes de liste, comme l'idée de Nicolas Sarkozy quand je m'implante dans le 7e arrondissement. Personne ne voulait que je sois maire du 7e arrondissement. Personne. Certains ont dit que j'allais faire perdre le 7e à la droite. D'autres ont dit, ah ben non, mais ils voteront jamais pour elle. D'autres ont dit, ça va repousser les électeurs. Je suis la maire le mieux élue de droite, enfin, d'arrondissement, dans le 7e arrondissement, depuis Frédéric Dupont, qui était l'égérie du 7e arrondissement, il y a des dizaines et des dizaines d'années. Ça montre bien que les Français sont plus ouverts que ces responsables politiques.
Vous étiez jusque-là en tête des sondages à 27-28. Aujourd'hui, vous l'êtes moins, c'est Emmanuel Grégoire qui est en tête. Comment vous expliquez ça?
J'ai toujours été en tête des sondages, devant Grégoire, Béliard.
Ouais, tout à fait.
C'est la première fois que la gauche par unis dès le premier tour. Parce qu'ils ont perdu, depuis Bertrand Delanoë à ce jour, ils ont perdu 15 points. Et donc là, ils sont un petit peu en sauve-qui-peut. Et donc, ils sont prêts à s'allier avec, tout et n'importe qui. Pourquoi? Parce que M. Grégoire n'est pas d'accord avec M. Béliard, qui n'est pas d'accord avec M. Brossa. Ils ne veulent pas de police municipale armée. Mais M. Béliard et M. Brossa ne veulent pas de police municipale tout court. Ils ne veulent pas de caméras de vidéoprotection. Ils ne veulent pas de plans de circulation. Ils veulent que le chaos dans l'espace public perdure. Ils veulent une ville de logements sociaux dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, oui, avec les détournements de fonds dont ils sont responsables. Donc moi, je ne veux pas que ça perdure et que ça continue comme ça. Et donc, moi, je dis aux Parisiennes ou aux Parisiens, faites-moi confiance. Ce n'est pas une question de personne. Ouais. Faites-moi confiance. Avec moi, Paris changera et changera en mieux.
Alors, changera en mieux, justement, vous appelez à un vote utile. Quelle alliance envisagez-vous, justement, au deuxième tour? Est-ce que vos alliances peuvent inclure l'extrême droite?
Moi, mes alliances, elles se font avec les Parisiennes et les Parisiens. Je ne suis pas une femme, je suis pas la femme d'un clan. Sur mes listes, il y a des gens de la société civile, de tous les partis.
Mais pourtant, vous avez une formation politique derrière vous.
Oui, hein. Mais je parle aux Parisiennes et aux Parisiens. Parce qu'en 2020, si on avait eu le mode de scrutin tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que les Parisiens vont pouvoir voter directement pour leur maire. Ouais. Il faut bien dire à tous les électeurs qu'il y aura deux urnes dans le bureau de vote. Il faut bien voter pour les deux urnes. Vous votez pour le maire d'arrondissement.
Ça, c'est une nouveauté, c'est important. On
et vous votez pour le maire de Paris. Et donc, c'est une nouveauté. Et si nous avions eu ce mode de scrutin en 2020, j'aurais été maire de Paris. Donc aujourd'hui, ce mode de scrutin a été adopté. Et donc, j'en appelle à la responsabilité des Parisiens. Si on disperse les votes dès le premier tour, on perd. Parce que ça n'est pas une présidentielle. Ce n'est pas les deux premiers qui sont qualifiés. C'est tous ceux qui auront au moins 10 qui pourront être qualifiés. Donc si aujourd'hui, on y va tous, en tous les cas, le changement a perdu.
Et l'alliance se fera avec qui?
Avec les Parisiens. Avec les Parisiennes
et les Parisiens. Vous ne parlez pas du tout de Pierre-Yves Bournazel.
Je vais vous dire pourquoi. Nous, on a appelé au rassemblement. Je fais une campagne de premier tour. Ouais. Les campagnes de premier tour, c'est des campagnes de rassemblement. Ouais. Et c'est, vous vous adressez aux Parisiennes et aux Parisiens. Ils n'aiment pas qu'on pense à leur place. Ils n'aiment pas qu'on considère que leur vote, de leur dire oh, « je vais m'allier avec celui-ci » ou avec ça. Ils n'aiment pas les accords d'appareil. Ils considèrent que vous devez leur parler directement, vous devez leur dire exactement ce que vous allez les faire. Mais moi, ma responsabilité, c'est de leur dire « si on disperse les votes, nous allons perdre. » Parce que tout le monde peut se maintenir. Donc aujourd'hui, le vote utile, c'est pas un vote utile par défaut, c'est un vote utile pour le changement. Et donc il est important que les Parisiennes et les Parisiens se mobilisent. Mobilisez-vous, y compris les gens de la diversité. Pour une fois, vous allez avoir une ville qui va être ouverte, qui ne va pas être sectaire, qui ne va pas être justement dans cet élitisme.
Vous avez 65 000 Parisiens qui sont d'origine algérienne, franco-algérienne. 65 000.
Et d'origine.
Ils sont certainement à l'écoute.
Et de toute origine,
parce que nous, on s'adresse bien sûr
exactement,
à un spectre plus
Radio
large.
Orient s'adresse à
beaucoup plus large.
Plus large que cela. Et tous les Européens peuvent voter. Tous les Européens, tous les citoyens de l'Union européenne peuvent voter au municipal. Donc je les invite aussi à aller voter.
Alors l'appel du pied de Sarah Knafou, vous n'avez pas répondu justement. Comment réagissez-vous?
Moi, je suis dans une démarche de rassemblement des électeurs. Si je suis à votre radio aujourd'hui, justement, c'est pour expliquer aux électeurs et les appeler au rassemblement derrière
moi. Donc c'est niette avec
J'appelle les
Sarah
électeurs.
Knafou.
Certains peuvent se
Parce qu'on a entendu Wauquiez dire justement les nouvelles droites, ça va de Wauquiez jusqu'à Sarah Knafou. C'est quand même un des leaders de votre parti.
Il ne faut pas se tromper d'échéance. Il parle de la présidentielle.
Oui.
Nous sommes sur une municipale. Je suis candidate.
Qui va impacter la présidentielle.
C'est pour ça. Je suis candidate à la mairie de Paris.
Oui.
Et donc, certains candidats sont des candidatures de témoignage ou un petit tour de chauffe avant la présidentielle. Mm-hmm. Moi, je dis aux Parisiennes et aux Parisiens, ne vous trompez pas d'élection. C'est une élection municipale qui concerne votre quotidien. Je m'engage à changer votre quotidien.
Donc la campagne de Knafou, c'est insignifiant à vos yeux?
Non. Parlez-moi de ma campagne et parlez-moi de ce que attendent les Parisiens et les Parisiennes. Je change.
Mais on parle également de vos adversaires.
Oui, bien sûr. Moi, je dis simplement aux Parisiennes et aux Parisiens, majoritairement, ils veulent le changement. Si jamais ils dispersent leur voix, que ce soit sur Mme Knafou ou M. Bournazel, ils auront cette équipe de gauche en pire, puisque le pire les a rejoints sur la liste. Voilà. Donc moi, je leur dis, si jamais vous dispersiez vos voix, nous aurons la gauche en pire.
Alors, nous avons une minute avant la fin de l'émission. Vous voyez, ça passe très vite avec vous, Rachida Dati. Nous sommes en plein mois sacré du Ramadan. Quel message adressez-vous, justement, à la communauté musulmane, en France et même ailleurs, à l'occasion de ce mois du Ramadan?
C'est un mois de communion. Moi, je trouve, vous me parliez tout à l'heure de mes origines, je ne me suis jamais reniée. Et je trouve que c'est très structurant. C'est pour moi une force. C'est pour moi une force d'être en accord avec ce que je suis, avec les valeurs qui m'ont été inculquées par mes parents, qui étaient musulmans, croyants, très pieux, et avec des valeurs justement...
Et très pratiquants.
Et très pratiquants.
On vous a interrogé sur le foulard, justement. Justement, ce foulard ne symbolise pas aujourd'hui, pour celles qui nous écoutent, plutôt, pas une idéologie forcément, mais plutôt l'expression d'une foi?
Ça peut être le cas et ça peut être aussi la traduction d'une idéologie, vous le savez bien. Faut pas, justement, nous aussi, qu'on prête le flanc à ceux qui voudraient, qui recherchent la stigmatisation pour mieux rejeter. Donc, il faut faire attention.
On est à visage découvert.
C'est
justement votre message.
Il faut reconnaître qu'il y a des gens très pieux qui sont dans la spiritualité. Moi, j'ai des membres de ma famille qui portent le foulard, que je respecte. Et que j'ai le respect de cela, d'une pratique religieuse ou d'une pratique d'une spiritualité. Mais d'autres l'instrumentalisent. Et il faut aussi qu'on le dénonce. Parce que justement, si vous voulez justement protéger, préserver cette foi qui... Moi, je n'ai pas été élevée dans le rejet de l'autre. J'ai été scolarisée dans une école catholique. Moi, je vais à la messe sans aucun problème. Je suis dans tous les lieux de culte. Moi, on m'a toujours appuré que tous les lieux de culte étaient un lieu d'accueil sans aucune distinction.
Tout à fait.
Et donc, en ce moment, vous voyez, vous avez le carême pour les catholiques et vous avez le ramadan.
Hasard de calendrier extraordinaire.
Et donc, comme nous avons pu avoir des fêtes juives en même temps que les fêtes musulmanes, ça nous permet de partager ensemble, justement,
cette fraternité.
Cette foi et cette fraternité qui sont aussi porteuses de valeurs et justement qui sont aussi porteuses du non-rejet de l'autre.
Voilà. Quel beau message! C'était Rachida Dati depuis son QG, changer Paris. Avec Rachida Dati, c'était donc la candidate LR sur notre antenne.
Et surtout, surtout, votez bien dès le premier tour. Vous voulez le changement, votez Rachida Dati dès le premier tour.
Voilà, qui est dit. Merci beaucoup Rachida Dati de nous avoir reçus dans votre QG.
Vous étiez les bienvenus.
À visage découvert, l'émission qui dévoile la face cachée des politiques de ceux et celles qui vous représentent au sein des institutions de la République. À visage découvert, un rendez-vous mensuel proposé et présenté par Nadia Bey. C'est mercredi 19h et rediffusion samedi 11h sur Radio Orient.